Thé et tête ou de la science. Partie 2. Socrate, Théodore, thé et tête. Socrate. Si je m'intéressais particulièrement au Cyrénéen, Théodore, je t'en demanderais des nouvelles. Je voudrais savoir de toi ce qui se passe chez eux, et si parmi leurs jeunes gens, il en est qui s'y livrent à l'étude de la géométrie et des autres sciences. Mais, comme j'ai pour eux moins d'amitié que pour les nôtres, et que je suis d'ailleurs singulièrement curieux de connaître ceux de nos jeunes gens qui pourront un jour se distinguer, je m'applique par moi-même, autant qu'il m'est possible, à les découvrir, et j'ai soin de consulter les hommes auprès desquels je les vois s'empresser. Ceux qui se sont attachés à toi ne sont pas en petit nombre, et il faut le dire, tu le mérites à tous égards, et surtout par tes connaissances en géométrie. Je désire donc savoir si tu en as rencontré quelqu'un qui mérite une distinction particulière. Théodore. Assurément, Socrate, je puis te dire, aussi volontiers que tu désires l'apprendre, quel est le jeune homme que j'ai distingué parmi les enfants d'Athènes. S'il était beau, je pourrais craindre d'en parler, de peur qu'on allât croire que j'ai de l'amour pour lui. Mais, soit dit sans t'offenser, loin d'être beau, il te ressemble avec son nez relevé comme le tien et ses yeux sortant de la tête, excepté pourtant qu'en lui, tout cela est moins marqué que chez toi. Ainsi, j'en parle avec sécurité. Tu sauras donc que de tous ceux auxquels j'ai donné jusqu'ici mes soins, et j'en ai vu beaucoup auprès de moi, jamais je n'ai rencontré un jeune homme d'un naturel plus heureux. En effet, qu'à une facilité d'apprendre presque sans exemple, on ait pu joindre une égalité d'humeur et une persévérance parfaite, c'est ce que je ne croyais pas possible et n'aperçois dans aucun autre. Loin de là, ceux qui, comme lui, ont un esprit pénétrant, de la vivacité et de la mémoire, paraissent assez ordinairement enclins à la colère. Ils se laissent emporter, ça et là, ballottés comme un navire sans lest. Ils ont plus de fougue que de constance. D'autre part, les caractères plus posés et plus calmes apportent à l'étude un esprit paresseux et sujet à beaucoup oublier. Lui, il marche dans la carrière de la science et de l'étude d'un pas toujours aisé, ferme et rapide, avec une douceur et une facilité comparables à l'huile qui coule sans bruit. Et je ne puis assez admirer qu'à son âge, il ait fait de si grands progrès. Socrate. Excellente nouvelle. Mais auquel de nos citoyens appartient-il ? Théodore. J'ai bien entendu le nom de son père, mais je ne me le rappelle pas. Au reste, le voici lui-même, au milieu de ce groupe qui s'avance vers nous. Il était sorti avec ses amis pour se frotter d'huile, et je pense que leur exercice achevé, ils viennent de ce côté. Vois si tu le connais. Socrate. Ah, je le connais. C'est le fils de Phronios de Sunium. Un homme, je puis le dire, tel que tu viens de peindre son fils. Il jouissait d'une haute considération et a laissé en mourant une grande fortune. Mais je ne sais pas le nom du jeune homme. Théodore. Il s'appelle Thée-Tête. Ses tuteurs ont, je crois, beaucoup diminué son patrimoine. Mais c'est encore là, dans tout ce qui regarde l'argent, qu'on peut admirer la noblesse de ses sentiments. Socrate. En vérité, tu en fais l'éloge le plus parfait. Dis-lui donc de venir s'asseoir auprès de nous. Théodore. Volontiers. Thée-Tête, viens ici auprès de Socrate. Socrate. Oui, approche-toi, Thée-Tête, que je me regarde une fois et vois comment est fait mon visage. Car Théodore dit qu'il ressemble au tien. Si cependant l'un et l'autre nous avions une lyre, et qu'il prétendit qu'elles fussent parfaitement d'accord ensemble, l'en croirions-nous d'abord, avant d'avoir examiné s'il est musicien ? Thée-Tête. Nous ferions d'abord cet examen.
Socrate. Et venant à découvrir qu'il est musicien, nous aurions foi à ses paroles. Autrement, nous n'y croirions point s'il ne connaissait pas la musique.
Tête.
Sans doute.
Socrate.
Eh bien donc, il me semble que si nous voulons nous assurer de la ressemblance de nos visages, il nous faut voir si Théodore est peintre et en état d'en juger.
Tête.
C'est aussi mon avis.
Socrate.
Eh bien, je te le demande. Théodore est-il peintre?
Tête.
Non, que je sache.
Socrate.
Et il n'est pas non plus géomètre.
Tête.
Si fait, il l'est sans aucun doute, Socrate.
Socrate.
Est-il aussi astronome, mathématicien, musicien et tout ce qui se rattache à ces sciences?
Tête.
Je le présume.
Socrate.
En ce cas, s'il prétend trouver en nous quelque ressemblance du côté du corps, en bien ou en mal, il ne faut pas donner grande attention à ses paroles.
Tête.
Peut-être non.
Socrate.
Mais quoi, s'il venait à louer l'un de nous pour la vertu et la sagesse, ne conviendrait-il pas que chacun prît soin d'examiner celui sur qui tomberait l'éloge, et que celui-ci, à son tour, s'empressa de découvrir volontairement le fond de son âme?
Tête.
Assurément.
Socrate.
Ce sera donc à toi, mon cher Tête, de te montrer à découvert, et à moi de t'examiner. Car tu sauras que Théodore, bien qu'il m'ait déjà parlé avantageusement d'une foule de jeunes gens étrangers ou athéniens, ne m'a jamais fait un aussi grand éloge de personne que de toi tout à l'heure.
Tête.
J'en serais fort heureux, Socrate, mais prends garde qu'il n'ait voulu plaisanter.
Socrate.
Ce n'est guère la manière de Théodore. Ainsi, ne rétracte pas ce que tu viens de m'accorder, sous prétexte que son dire n'était qu'un badinage. Ce serait l'obliger à venir faire ici une déposition en règle, et personne, assurément, ne l'accuserait de faux témoignage. Reste-en plutôt, crois-moi, à ce dont tu es convenu.
Tête.
Alors, il faut bien m'y soumettre, si c'est là ton avis.
Socrate.
Eh bien, dis-moi, n'apprends-tu pas auprès de lui la géométrie?
Tête.
Oui,
Socrate.
Et aussi l'astronomie, l'harmonie, les mathématiques.
Tête.
Je m'y applique, du moins.
Socrate.
Et moi de même, jeune homme. J'apprends de Théodore et de tous ceux que je crois habiles en ces matières. Mais, quoique je sois déjà assez avancé sur tous les points, il me reste pourtant quelques doutes sur une chose peu importante, dont je voudrais m'éclaircir avec toi et avec ceux qui sont ici présents.
Réponds-moi donc.
Apprendre, n'est-ce pas devenir plus savant sur ce que l'on apprend?
Tête.
Se peut-il autrement?
Socrate.
Et les savants? C'est, je pense, par le savoir qu'ils deviennent tels.
Tête.
Oui.
Socrate.
Mais est-ce autre chose que la science?
Tête.
Quoi?
Socrate.
Le savoir. Ne sait-on pas les choses dont on a la science?
Tête.
Et le moyen du contraire?
Socrate.
Le savoir et la science sont donc une même chose?
Tête.
Oui.
Socrate.
Ah, c'est sur quoi il me reste des doutes, et je ne puis me suffire à moi-même pour approfondir ce que c'est que la science. Y aurait-il moyen de l'expliquer? Qui de vous veut commencer? Mais celui qui se trompera, et à son tour chacun de ceux qui se tromperont, sera l'âne, comme disent les enfants au jeu de balle. Celui qui résoudra la question sans se tromper sera notre roi, et pourra nous proposer les questions qu'il voudra. Mais pourquoi gardez-vous le silence? Deviendrai-je incommode, Théodore, par le plaisir que je prends à causer et, en cherchant à engager une conversation qui nous lie et nous fasse connaître les uns aux autres?
Théodore,
tu ne saurais par là nous être incommode, Socrate. Mais engage l'un de ces jeunes gens à te répondre, car pour moi, je n'ai nul usage de cette manière de converser. Et pour m'y accoutumer, je ne suis plus guère d'âge à le faire, au lieu que cela leur convient et qu'ils en peuvent tirer un grand profit. La jeunesse, il faut le dire, est propre à tout apprendre. Ainsi ne laisse point aller tes têtes et continue à l'interroger.
Socrate.
Tu l'entends, tes têtes? Et tu ne voudras pas, je pense, désobéir à Théodore. D'ailleurs, il serait malséant à un jeune homme, en pareil cas, de se refuser à ce qu'un sage lui commande.
Dis-nous donc franchement et sans crainte ce que tu penses que soit la science.
Théétète.
Je le ferai, Socrate, puisque vous le voulez tous deux. Aussi bien, si je me trompe, vous me corrigerez.
Socrate.
Oui, si nous en sommes capables.
Théétète.
Je pense donc que tout ce que l'on peut apprendre de Théodore sur la géométrie et les autres arts dont tu as parlé sont autant de sciences. Comme aussi les arts, soit du cordonnier, soit de tous les autres artisans, chacun dans leur genre.
Socrate.
Pour une chose que je te demande, mon ami, tu m'en donnes libéralement plusieurs, et pour un objet simple, des objets fort différents.
Théétète.
Comment, Socrate, que veux-tu dire?
Socrate.
Peut-être rien. Je vais pourtant t'expliquer ce que j'entends. Quand tu parles de l'art du cordonnier, veux-tu désigner par là autre chose que la science de faire des souliers?
Théétète.
Non.
Socrate.
Et l'art du menuisier est-il autre que la science de fabriquer des ouvrages en bois?
Théétète.
Non.
Socrate.
Dans l'un et l'autre cas, tu spécifies quel est l'objet dont chacun de ces arts est la science.
Théétète. Sans doute.
Socrate. Mais je n'ai pas demandé quel est l'objet de chaque science, ni combien il y a de sciences, car notre but n'était pas de les compter, mais de bien comprendre ce que c'est que la science en elle-même. Ce que je dis n'est-il pas juste?
Théétète.
Très juste.
Socrate.
Écoute encore ceci. Si, au sujet des choses les plus communes, telles que, par exemple, l'argile, quelqu'un nous demandait ce que c'est. En répondant qu'il y a l'argile du potier, l'argile du faiseur de poupées, l'argile du fabricant de briques, ne craindrions-nous pas de nous faire moquer de nous?
Théétète.
Peut-être bien.
Socrate.
D'abord, parce que nous croirions avoir instruit par notre réponse celui qui nous interroge, pour avoir répété avec lui l'argile, ajoutant seulement du faiseur de poupées ou de tel autre artisan. Imagines-tu qu'on puisse comprendre le nom d'une chose avant de savoir ce qu'il signifie?
Théétète.
Cela ne se peut.
Socrate.
Il n'a donc nulle idée de la science des souliers, celui qui ne sait pas ce que signifie ce mot, la science.
Théétète.
Non, sans doute.
Socrate.
Ne pas savoir ce que c'est que la science implique nécessairement l'ignorance, celle de l'art du cordonnier ou de tout autre art.
Théétète.
Oui.
Socrate.
Il est donc ridicule à cette question, qu'est-ce que la science, de répondre par le nom d'un art quelconque. C'est indiquer l'objet d'une science, tandis que ce n'est pas là ce qu'on demande.
Théétète.
En effet.
Socrate.
C'est prendre un long détour, quand il serait aisé de répondre en peu de mots. Car enfin, si l'on demande ce que c'est que l'argile, il est facile et simple de dire « l'argile est une terre détrempée avec de l'eau » sans aller faire mention de ceux à l'usage desquels elle est faite.
Théétète.
Rien de plus aisé maintenant, Socrate. La question me paraît de même nature que celle qui se présenta dernièrement à nous en travaillant ensemble, Socrate que voici, ton frère de nom, et moi.
Socrate.
Qu'était-ce, Théétète?
Théétète.
Théodore nous enseignait quelque chose sur les racines des nombres, nous démontrant que celles de 3 et de 5 ne sont point commensurables en longueur avec celles de 1. Et il prenait ainsi de suite chaque racine jusqu'à celle de 17, à laquelle il s'arrêta. Jugeant donc qu'elles étaient infinies en nombre, il nous prit envie d'essayer si on ne pourrait les comprendre sous un seul nom qui leur convint à toutes.
Socrate. Et avez-vous fait cette découverte?
Théodore.
Je crois que oui, et tu peux en juger.
Socrate.
Voyons.
Théodore.
Nous avons partagé tous les nombres en deux classes, ceux qui peuvent se disposer par rangées égales, de telle sorte que le nombre des rangées soit égal au nombre d'unités que chacune renferme. En les assimilant à des surfaces carrées, nous les avons nommées carrées et équilatères.
Socrate.
Bien.
Théodore.
Quant aux nombres intermédiaires, tels que 3, 5 et les autres qui ne peuvent se partager en rangées égales de nombres égaux, ainsi qu'on vient de dire, et qui sont composés d'un nombre de rangées moindre ou plus grand que celui des unités de chacune d'elles, d'où il résulte que la surface qui les représente est toujours comprise entre des côtés inégaux. Quant à ces nombres, les assimilant à des surfaces oblongues, nous les avons nommés oblongs.
Socrate.
Très bien. Mais après?
Théodore.
Nous avons compris sous le nom de longueur les lignes qui réduisent en carré le nombre équilatère plan, et sous celui de racine, celles qui réduisent en carré le nombre oblong, comme n'étant point commensurables en longueur aux premières, mais seulement par les surfaces qu'elles produisent. Il en est de même des solides.
Socrate.
Ah, merveille, mes enfants! On n'accusera point Théodore d'avoir rendu un faux témoignage.
Théodore.
Mais cependant, Socrate, je ne saurais te répondre sur la science comme je le ferais sur la longueur et la racine. Et pourtant, si je ne me trompe, ta question est à peu près de même nature, de sorte que Théodore pourrait encore avoir tort.
Socrate.
Comment? S'il avait loué ton agilité, et qu'il eût dit qu'entre tous nos jeunes gens, il n'en avait pas rencontré de plus habile à la course, croirais-tu, si tu venais par la suite à être surpassé par un adversaire dans la force de l'âge et d'une rare vitesse, que son éloge fût pour cela moins véritable?
Théodore. Non pas.
Socrate. Et penses-tu que ce soit aussi une petite affaire de découvrir la nature de la science, comme je le demandais tout à l'heure? Ne serait-ce pas plutôt une des questions les plus difficiles?
Théodore.
Une des plus difficiles, par Jupiter.
Socrate.
Ne désespère donc pas de toi-même, et crois-en un peu, Théodore. Mais applique-toi en toute chose, et particulièrement pour la science, à bien comprendre son essence et sa nature.
Théodore.
Ah, s'il ne tient qu'à faire des efforts, nous en viendrons à bout.
Socrate.
Eh bien donc, tu t'es mis déjà toi-même très bien sur la voie, et prenant pour modèle ta réponse au sujet des surfaces du carré, de même que tu les as toutes comprises sous une idée générale, tâche de renfermer de même toutes les sciences dans une seule définition.
Théodore.
Je t'avoue, Socrate, que j'ai essayé plus d'une fois de résoudre cette difficulté qu'on disait avoir été posée par toi. Mais je ne puis me flatter d'avoir jusqu'ici rien trouvé de satisfaisant, et jamais, que je sache, je n'ai entendu personne répondre à cette question comme tu le demandes. Je suis loin, malgré cela, de renoncer à m'en occuper.
Socrate.
Tu éprouves, mon cher Théodore, les douleurs de l'enfantement. En vérité, ton âme est grosse.
Théodore.
Je n'en sais rien, Socrate, mais je t'ai dit tout ce qui se passe en moi.
Socrate.
Peut-être ignores-tu encore, pauvre innocent, que je suis fils d'une sage-femme habile et renommée, de Phénarète.
Théodore.
Je l'ai ouï dire.
Socrate.
T'a-t-on dit aussi que j'exerce la même profession ?
Théétète. Jamais.
Socrate. Sache donc que rien n'est plus vrai.
Mais, mon ami, ne va pas le redire à d'autres, car personne ne me connaît ce talent.
Et comme on ignore cela de moi, on n'en parle pas.
On dit seulement que je suis bien le plus singulier des hommes et que je me plais à jeter tout le monde dans le doute.
Ne l'as-tu pas déjà entendu dire ?
Théétète.
Oh, souvent.
Socrate.
Et veux-tu en savoir la raison ?
Théétète.
Volontiers.
Socrate.
Rappelle-toi bien tout ce qui concerne les sages-femmes et tu comprendras plus facilement où j'en veux venir. Tu sais bien qu'aucune d'elles ne se mêle d'accoucher les autres femmes, tant qu'elle peut elle-même avoir des enfants, et qu'elles ne font ce métier que quand elles ne sont plus capables de concevoir.
Théétète.
En effet.
Socrate.
On attribue cet usage à Diane. C'est du moins ce que l'on dit, parce que, sans enfanter elle-même, elle préside aux accouchements. Elle n'a pas pu confier cet emploi aux femmes stériles, la nature humaine étant trop faible pour pratiquer un art dont elle n'aurait aucune expérience. Mais la déesse a confié ce soin à celles qui, par leur âge, ne sont plus en état de concevoir, honorant en elles cette ressemblance avec elles-mêmes.
Théétète. Ah, cela me semble assez juste.
Socrate.
N'est-il pas juste aussi et nécessaire que les sages-femmes sachent mieux que personne si une femme est enceinte ou non ?
Théétète. Sans doute.
Socrate.
Elles peuvent même, par des remèdes et des enchantements, éveiller les douleurs de l'enfantement ou les adoucir, délivrer les femmes qui ont de la peine à accoucher ou bien faciliter l'avortement de l'enfant quand la mère est décidée à s'en défaire.
Théétète. Il est vrai ?
Socrate. N'as-tu pas aussi entendu dire qu'elles sont de très habiles négociatrices en affaires de mariage, parce qu'elles savent parfaitement distinguer quel homme et quelle femme il convient d'unir ensemble pour avoir les enfants les plus accomplis.
Théétète.
Ah non, je ne le savais pas encore.
Socrate.
Eh bien, sois persuadé qu'elles sont plus fières de ce talent que même de leur adresse à couper le nombril. En effet, pense-y bien. Crois-tu que ce soit le même art ou deux arts différents, de savoir cultiver et recueillir les fruits de la terre, ou de bien s'entendre à distinguer quel terrain convient à telle plante ou à telle semence.
Théétète, c'est le même art.
Socrate, et par rapport à la femme, crois-tu qu'il y ait là deux arts différents ?
Théétète,
cela n'est pas probable.
Socrate,
non. Mais à cause des unions illégitimes et mal assorties dont se chargent des entremetteurs corrompus, les sages-femmes, par respect pour elles-mêmes, ne veulent point se mêler des mariages, dans la crainte qu'on ne les soupçonne aussi de faire un métier déshonnête. Car, du reste, il n'appartient qu'aux sages-femmes véritables de bien assortir les unions conjugales.
Théétète.
Il est vrai.
Socrate.
C'est donc là l'office des sages-femmes. Ma tâche est plus importante. En effet, il n'arrive point aux femmes d'enfanter tantôt des êtres véritables, tantôt de simples apparences.
Distinction qui serait fort difficile à faire.
Car s'il en était ainsi, le triomphe de l'art pour une sage-femme serait alors, n'est-il pas vrai, de savoir distinguer ce qui est vrai en ce genre d'avec ce qui ne l'est pas.
Théétète.
Ah, je le pense aussi.
Socrate.
Eh bien, le métier que je pratique est en tout point le même. À cela près que j'aide à la délivrance des hommes et non pas des femmes, et que je soigne non les corps, mais les âmes en mal d'enfant. Mais ce qu'il y a de plus admirable dans mon art, c'est qu'il peut discerner si l'âme d'un jeune homme va produire un être chimérique ou porter un fruit véritable. J'ai d'ailleurs cela de commun avec les sages-femmes, que par moi-même je n'enfante rien en fait de sagesse. Et quant aux reproches que m'ont fait bien des gens, que je suis toujours disposé à interroger les autres, et que jamais moi-même je ne réponds à rien,
parce que je ne sais jamais rien de bon à répondre. Ce reproche n'est pas sans fondement. La raison en est que le Dieu me fait une loi d'aider les autres à produire et m'empêche de rien produire moi-même. De là vient que je ne puis compter pour un sage et que je n'ai rien à montrer qui soit une production de mon âme. Au lieu que ceux qui m'approchent, fort ignorants d'abord pour la plupart, font, si le Dieu les assiste, à mesure qu'ils me fréquentent, des progrès merveilleux qui les étonnent ainsi que les autres. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils n'ont jamais rien appris de moi. Mais ils trouvent d'eux-mêmes et en eux-mêmes toutes sortes de belles choses dont ils se mettent en possession. Et le Dieu et moi, nous n'avons fait auprès d'eux qu'un service de sage-femme. La preuve de tout ceci est que plusieurs, qui ignoraient ce mystère et s'attribuaient à eux-mêmes leur avancement, m'ayant quitté plus tôt qu'il ne fallait, soit par mépris pour ma personne, soit à l'instigation d'autrui, ont depuis avorté dans toute leur production, à cause des mauvaises liaisons qu'ils ont contractées, et gâté par une éducation vicieuse ce que mon art leur avait fait produire de bon. Ils ont fait plus de cas des apparences et des chimères que de la vérité, et ils ont fini par paraître ignorants à leurs propres yeux et aux yeux d'autrui. De ce nombre est Aristide, fils de Lysimaque, et beaucoup d'autres. Lorsqu'ils viennent de nouveau pour renouer commerce avec moi, et qu'ils font tout au monde pour l'obtenir, la voix intérieure qui ne m'abandonne jamais me défend de converser avec quelques-uns, et me le permet à l'égard de quelques autres, et ceux-ci profitent comme la première fois. Et pour ceux qui s'attachent à moi, il leur arrive la même chose qu'aux femmes en travail. Jour et nuit, ils éprouvent des embarras et des douleurs d'enfantement plus vives que celles des femmes. Ce sont ces douleurs que je puis réveiller ou apaiser quand il me plaît, en vertu de mon art. Voilà pour les uns. Quelquefois aussi, tête, j'en vois dont l'esprit ne me paraît pas encore fécondé, et connaissant qu'ils n'ont aucun besoin de moi, je m'occupe avec bienveillance à leur procurer un établissement. Et je puis dire, grâce à Dieu, que je conjecture assez heureusement auprès de qui je dois les placer pour leur avantage. J'en ai ainsi donné plusieurs à Prodicus et à d'autres sages et divins personnages. La raison pour laquelle je me suis étendu sur ce point, mon cher ami, est que je soupçonne, comme tu t'en doutes toi-même, que ton âme souffre les douleurs de l'enfantement. Agis donc avec moi comme avec le fils d'une sage-femme, expert lui-même en ce métier. Efforce-toi de répondre, autant que tu en es capable, à ce que je te propose. Et si, après avoir examiné ta réponse, je pense que c'est une chimère et non un fruit réel, et qu'en conséquence je te l'arrache et le rejette, ne t'emporte pas contre moi, comme font, au sujet de leurs enfants, celles qui sont mères pour la première fois. En effet, mon cher, plusieurs se sont déjà tellement courroucés lorsque je leur enlevais quelque opinion extravagante qu'ils m'auraient véritablement déchiré. Ils ne peuvent se persuader que je ne fais rien en cela que par bienveillance pour eux. Ne se doutant pas qu'aucune divinité ne veut du mal aux hommes, que je n'agis point ainsi non plus par aucune mauvaise volonté à leur égard, mais qu'il ne m'est permis en aucune manière ni de transiger avec l'erreur, ni de tenir la vérité cachée. Essaie donc de nouveau, Théétète, de me dire en quoi consiste la science, et ne m'allègue point que cela passe tes forces. Si Dieu le veut, et si tu y mets de la constance, tu en viendras à bout.